Voilà, depuis quelques mois maintenant, nous sommes engagés avec notre Église, vous savez, pour la plupart, dans une réflexion globale sur notre Église et notamment pour se projeter un petit peu dans l'avenir, faire le point, faire le bilan, essayer de renouveler peut-être nos projets, notre vision pour pouvoir remplir pleinement la vocation que le Seigneur nous adresse. Donc cette réflexion, elle a déjà eu plusieurs aspects, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, mais il était décidé aussi que nous pourrions avoir en ce début d'année 2011 une petite série de quelques prédications tournant autour du thème de l'Église, à partir de quatre textes du Nouveau Testament qui pourront contribuer à alimenter notre réflexion et le renouvellement peut-être de notre vision pour l'Église en général, mais pour notre Église d'Avignon en particulier. Le premier texte qui va nous intéresser ce matin pour cette réflexion, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 et nous lirons les versets 13 à 20. Matthieu 16, versets 13 à 20. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie et l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce texte, on a déjà eu l'occasion de le lire, j'ai même déjà eu l'occasion d'y consacrer au moins une, voire peut-être deux prédications. Depuis que je suis ici sur Avignon, c'est un texte fondamental hein, qui peut être abordé d'ailleurs sous bien des angles différents. On peut s'attarder sur le sondage, l'enquête, entre guillemets, que Jésus conduit auprès de ses disciples pour savoir ce que les gens disent de lui et d'analyser les différentes réponses et se rendre compte qu'il y a là le reflet de l'attente messianique qui était très forte, très présente au temps de Jésus. On peut regarder ce texte sous l'angle de la confession de foi de Pierre, s'arrêter sur ce qu'il dit et qui deviendra et qui est pour nous ce qu'on peut appeler une pierre de touche de la théologie chrétienne, reconnaître dans Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis on peut s'arrêter aussi sur les paroles de Jésus, sur ce qu'il dit notamment en réponse aux questions qu'il a posées, et notamment en réponse à la confession de foi de Pierre. Et là, c'est une parole fondamentale que Jésus dit sur l'Église, sur son Église, parce qu'il dit clairement « Je bâtirai mon Église ». Et c'est cette simple phrase, cette affirmation si forte, si fondamentale, qui va nous intéresser ce matin pour cette première prédication sur la thématique de l'Église. « Je bâtirai mon Église ». On pourrait mettre même en évidence le « Je bâtirai mon Église ». L'Église, et c'est la première affirmation que nous pouvons déduire de ce que Jésus dit ici, l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur et pas la nôtre. « Je bâtirai mon Église ». L'Église, ce n'est pas une invention des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui tout d'un coup se sont dit « Ah ben tiens, on va inventer quelque chose d'original, on va inventer l'Église ». Non, en réalité, c'est une réalité que Jésus lui-même a voulu instituer, déjà en choisissant 12 apôtres, qui seront en quelque sorte le premier embryon de cette Église, en leur donnant des instructions, en affirmant aussi que c'est lui qui, par la suite, construira, bâtira cette Église. Ce n'est pas une invention des hommes, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour ses enfants, le projet de Dieu pour ses disciples, pour les chrétiens, et de tous les temps, l'Église de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Église, dans tous ses aspects, dans toute son histoire et partout, soit toujours un exemple lumineux, éclatant, de consécration à Dieu, d'amour fraternel, et un reflet extrêmement fidèle de l'amour de Dieu. Il ne faut pas se faire une vision idéaliste, idéalisée de l'Église. Pour autant, malgré cet aspect humain des choses, qui est aussi une des parts de l'Église, malgré cela, qui explique aussi l'imperfection de l'Église, elle demeure, l'Église, toujours le projet de Dieu. Et ça, c'est vrai, bien sûr, de l'Église universelle, mais je crois que c'est vrai aussi de l'Église locale. Même à l'échelon local, l'Église est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu, avant d'être la nôtre. Ce qui signifie pour nous que le projet de Dieu pour son Église dépasse largement nos projets. Ça ne veut pas dire que nous ne devions pas élaborer, nous, des projets, mais que, quels que soient les projets que nous fassions, quelle que soit notre vision, aussi perçante soit-elle, nos projets aussi ambitieux soient-ils, ces projets-là sont qu'un pâle reflet des projets de Dieu pour son Église. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui a un projet pour nous, ses enfants. Et nous sommes appelés, nous, simplement, à entrer dans ses projets. Et affirmer cela implique pour nous, et notamment dans la réflexion qui est la nôtre, depuis quelque temps, une attitude d'humilité face à nos projets, face à nos initiatives, face à nos réflexions. Toujours à être placé, à être replacé devant le Dieu Tout-Puissant qui, lui, a ses projets pour nous. Humilité, prière aussi, écoute de Dieu ce qu'il a à nous dire. Quels sont ses projets pour nous? C'est sans doute la première question à se poser lorsque nous réfléchissons à ce que nous voulons être en tant qu'Église. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quels sont ses projets pour nous? Vous aurez remarqué que dans ce texte de Matthieu, associé à l'affirmation de Jésus, « Je bâtirai mon Église », il y a une promesse forte, ferme. Une promesse qui est fiable et qui ne peut être fiable d'ailleurs que si c'est lui qui bâtit son Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'Église, en tant que projet de Dieu pour les hommes, ne sera jamais engloutie par le séjour des morts. L'Église, en tant que projet de Dieu, existera toujours. Parce que c'est le projet de Dieu. Parce que c'est lui qui le met en œuvre. C'est une promesse. Je bâtirai mon Église et rien ni personne ne pourra la détruire. Pas même les portes du séjour des morts. Pas même la mort, pas même aucune force ou puissance de destruction et de mort ne pourra anéantir l'Église, parce que c'est mon Église, nous dit Jésus. Et le seul garant de cette promesse, c'est justement que c'est lui qui bâtit son Église. Parce que si l'Église est un projet humain, dites-vous bien que elle n'aura pas un avenir bien longtemps encore. On pourrait même se dire que si l'Église existe toujours depuis 2000 ans, c'est bien là un signe que c'est le Christ lui-même qui bâtit son Église. Si ça reposait uniquement sur des hommes, même des hommes remarquables, même les apôtres, et peut-être d'autres qui les ont suivis, le projet n'aurait pas tenu. Mais parce que Jésus lui-même bâtit son Église, alors les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nul ne pourra détruire l'œuvre du Seigneur. Les clés du royaume que Jésus donne ici dans ce texte à Pierre, ces clés du royaume sont plus fortes que les portes du séjour des morts. C'est cette porte qui, ces clés qui ouvrent et qui ferment. Et les portes du séjour des morts peuvent être grandes ouvertes, elles n'engloutiront pas l'œuvre du Seigneur. Pourtant, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, dès le début et jusqu'à aujourd'hui, des forces de mort, des forces de destruction, il y en a eu et il y en a encore. Des forces de destruction externes, avec les oppositions, les persécutions que les chrétiens ont connues très tôt dans l'histoire et qui continuent aujourd'hui encore dans un certain nombre de pays, vous le savez. Ces forces pourtant extérieures de destruction ne peuvent anéantir l'œuvre de Jésus-Christ dans son Église. Et on le voit, même dans les pays aujourd'hui encore où les chrétiens sont persécutés, l'Église est là. Les chrétiens témoignent de leur foi, l'œuvre de Dieu se poursuit. Et puis, il y a aussi de tout temps dans l'Église eu des forces de mort ou des forces de destruction internes, avec les tensions, avec les divisions qui ont gangréné l'histoire de l'Église dès le début, hein, il suffit de lire le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul écrit un certain nombre d'églises, on voit qu'il y a des forces internes de division qui règnent. Et puis, bon, que dire de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui encore, où ces forces de division, ces rivalités, ces jalousies, ces partis pris, ces jeux de pouvoir existent encore dans les églises. Et pourtant, malgré ces forces qui s'opposent, l'œuvre de Dieu dans son Église se poursuit. L'Église est toujours là. Notez une petite remarque sur laquelle il est important de s'arrêter, c'est que cette promesse ici, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, cette promesse-là, elle s'applique pleinement à l'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Ça ne veut pas dire que des églises locales ne puissent pas, à cause de leur imprudence peut-être, en se laissant submerger par ces forces de destruction externes ou internes, ne puissent pas, elles, se laisser parfois engloutir. Il y a des exemples d'églises locales, de communautés locales, qui, pour différentes raisons, sont mortes, n'existent plus aujourd'hui. Et il faut donc toujours rester vigilant sur l'échelon local pour ne pas laisser les portes du séjour des morts nous engloutir, mais s'appuyer sur la promesse ferme du Seigneur que ceux qui restent attachés à lui peuvent bénéficier de cette promesse. Alors, dans ce cas-là, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur ceux qui sont fondés sur le Christ, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Petite remarque encore à propos de cette première affirmation. Disons que l'Église est l'œuvre du Seigneur et pas la nôtre, ça implique que personne ne peut prétendre à un quelconque droit sur elle. Je n'ai pas de droit sur l'Église, même sur mon Église. Même si je paie ma cotisation, même si je donne à l'offrande, même si je suis membre de l'Église, même si j'en suis membre depuis longtemps, peut-être depuis la fondation, même si je suis un des responsables de cette Église, même si je suis le pasteur de cette Église, je ne peux prétendre à un quelconque droit sur elle. Ce n'est pas mon Église de laquelle j'attends, voire j'exige ceci ou cela. C'est l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle je suis appelé à servir pour le bien de tous. Est-ce qu'on n'a pas tendance parfois, et je ne parle pas spécialement pour notre Église d'Avignon ici, c'est une remarque générale sur ce que je vois aussi, ce que j'entends, à voir d'abord, revendiquer nos droits par rapport à l'Église. Et on estime être en droit d'attendre que l'Église nous apporte ceci ou cela, qu'elle soit, nous apporte tel confort ou tel réconfort ou tel enseignement ou, tel, ou ceci ou cela. Autrement dit, on attend de l'Église qu'elle soit un prestataire de service pour nous, alors qu'elle est d'abord un lieu pour notre service. L'Église, avant d'être un prestataire de service, est l'occasion pour chacun de ses membres de trouver un lieu de service. N'inversons pas les choses. Ne réfléchissons pas sur nos droits, mais demandons-nous sur la façon dont nous pouvons nous mettre au service les uns des autres. Parce que si l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur et pas la nôtre, il faut aussi immédiatement affirmer que c'est pourtant une œuvre qui ne se fera pas sans nous. C'est bien ce que Jésus laisse entendre aussi ici. Non pas que quiconque dans l'Église, dans toute Église, soit indispensable et irremplaçable, mais parce que le Seigneur ne veut laisser personne sur la touche. Pour vous, Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Et la question, elle est pour nous encore. Pour vous, qui est Jésus? Les réponses, ce sondage, cette enquête que j'ai mentionné tout à l'heure, nous donnent différentes réponses. Et aujourd'hui, si on posait la question autour de nous, dans la rue, ou peut-être même dans les églises, pour vous, qui est Jésus? Certains diraient un sage, d'autres diraient un révolutionnaire, d'autres diraient un fauteur de troubles, d'autres diraient peut-être même un prophète. Mais si vous répondez l'une de ces réponses, laissez-moi vous dire que l'Église, sans doute, ça ne vous concerne pas. Par contre, si vous dites, si vous répondez qu'il est un charpentier, comme vous entendez à côté, ou si vous répondez surtout qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme Pierre l'a répondu, alors ça change pas mal de choses. Parce que c'est sur la pierre de cette confession de foi que Jésus va construire son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a un jeu de mots alors, qui sort comme ça en français, c'est le même terme, alors qu'en grec, c'est deux termes un peu différents. Tu es Pierre, tu es Pétros, et sur cette pierre, Petra, donc ça ressemble, mais ce n'est pas exactement le même mot, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je crois que le sens de cette affirmation de Jésus, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, c'est de dire, aussi vrai que tu t'appelles Pierre, eh bien c'est sur la pierre, celle de ta confession de foi, que je bâtirai mon Église. C'est pas Pierre lui-même qui est le roc, qui est la pierre sur laquelle l'édifice de l'Église va être construit. Mais c'est Pierre en tant qu'il est celui qui confesse en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. La seule personne sur laquelle l'Église se fonde et s'appuie pour être édifiée, c'est la personne du Christ, aucune autre personne humaine. Mais en même temps, l'Église ne se bâtit pas sur des dogmes ou des doctrines, mais avec des hommes et des femmes, pierres vivantes de l'Église, vous et moi, nous qui pouvons confesser, comme Pierre, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ne dépend pas de nous, c'est vrai, mais rien ne se fera sans nous. Jésus a choisi d'appeler 12 disciples pour le suivre et pour être l'embryon premier de cette Église. Il choisit de nous appeler aujourd'hui encore à son service et de nous joindre à son Église. Il choisit de bâtir son Église, lui, mais de le faire avec les pierres vivantes que nous sommes. Il choisit de se fonder sur ceux qui reconnaissent en lui le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ne dépend pas de nous parce que c'est son œuvre, mais rien ne se fera sans nous parce qu'il l'a décidé ainsi. Serons-nous de ces pierres que le Seigneur ajoute à son édifice? Serons-nous de ces pierres vivantes qui faisons partie de l'Église qui est construite? Saurons-nous trouver la place utile, la place de service que nous pourrons rendre pour que l'Église de Jésus-Christ grandisse ici aussi à Avignon, comme dans le monde entier? Dans notre réflexion sur l'avenir de notre Église, il faut d'abord, je conclurai ainsi, d'abord tenir compte de cette vérité fondamentale. C'est Jésus-Christ qui construit son Église. C'est son œuvre d'abord et pas la nôtre. Et cela en dit long sur la nécessité de la prière dans l'écoute de la parole du Seigneur. C'est aussi une attitude qui implique une bonne dose d'humilité pour accepter que nos projets, parfois, ne sont pas toujours justes, pour accepter que nos idées ne sont pas toujours bonnes, pour accepter que nos initiatives ne sont pas toujours heureuses. Pour autant, le Seigneur n'accomplira pas son œuvre sans nous, parce qu'il nous appelle à son service et au service les uns des autres. Sommes-nous prêts pour ce service? Là où le Seigneur voudra nous utiliser, non pas pour construire notre Église, mais pour travailler dans l'Église que le Seigneur a choisi de construire avec nous. Amen.